Il y a une sorte de revanche de l'histoire un petit peu entre d'un côté un ancien opposant et un artisan de la démocratie et du processus de démocratisation de la Corée du Sud dans les années 80, M. Moon, et puis de l'autre, la fille du dictateur, mais je dirais plus que la fille du dictateur, elle était aussi à une époque considérée comme la première dame du pays, après une tentative d'assassinat contre son père qui a échoué, mais au cours de laquelle sa mère est décédée. Et donc elle avait occupé un petit peu le siège laissé vacant par sa mère. Et pendant les 5 dernières années de la présidence dictatoriale de fait de son père, à la fin des années 70, elle était véritablement sous les feux de la rampe, elle était très exposée médiatiquement et elle était présente dans toutes les cérémonies auxquelles participait son père.
Cet héritage familial ne risque-t-il pas de nuire à Mme Park? En termes de symbole, sa candidature est très forte.
Effectivement, en termes de symbole, sa candidature est très forte. Alors, pour de nombreux Coréens, et c'est la raison qui explique son succès actuel dans les sondages, cela ne pose pas de problème puisque le dictateur Park Chung-hee, en dehors du fait qu'effectivement il est connu pour la répression des mouvements démocratiques et puis l'usage de la torture, est aussi l'artisan du miracle économique coréen. Et dans une période un petit peu morose aujourd'hui en Corée du Sud, eh bien dans l'esprit de nombreux Coréens, Mme Park pourrait apporter avec elle ce symbole un petit peu revigorant de l'économie et par conséquent elle bénéficie d'un soutien assez fort.
Le miracle économique que vous évoquez n'a pas bénéficié à l'ensemble de la population. Les évêques sud-coréens se sont adressés aux candidats réclamant une société plus juste. Quels sont aujourd'hui les principaux défis pour le pays ?
Les défis que l'on retrouve en Corée du Sud sont assez semblables aux autres sociétés développées d'Asie du Nord-Est, des sociétés qui effectivement ont connu un miracle économique très fort, mais qui ne sont pas encore parvenues dans une situation de juste répartition des richesses, d'un véritable état-providence, d'une assurance sociale qui effectivement touche l'ensemble des classes sociales. Et il y a effectivement des problèmes sérieux en termes de corruption, en particulier au niveau local. Et c'est un sujet qui, bien sûr, préoccupe beaucoup les Coréens à la veille des élections.
Ce scrutin présidentiel se tient quelques jours après le lancement d'un missile par la Corée du Nord. Le dossier nord-coréen reste le plus délicat en matière de politique étrangère.
Effectivement, dans la vie politique sud-coréenne, la Corée du Nord représente un enjeu de taille. Et là encore, les candidats s'opposent ou plus exactement opposent des projets qui sont très différents les uns des autres. Mme Park souhaite un petit peu maintenir la ligne qui a été celle de Lim Yong-bak au cours des 5 dernières années, la ligne qui est celle du parti conservateur, le Senuri, qui consiste à refuser toute forme de compromis avec la Corée du Nord et puis de contraindre un petit peu la Corée du Nord à faire des efforts avant éventuellement de réengager le dialogue. Et puis de l'autre, M. Moon qui s'appuie aujourd'hui sur l'héritage de ses deux prédécesseurs du Parti démocratique, les présidents Kim et Ro, qui étaient les artisans de la Sunshine Policy. Et lui souhaite, il l'a annoncé pendant cette campagne, relancer le dialogue avec la Corée du Nord dans le cadre d'une élection. Donc on voit qu'il y a véritablement deux orientations très distinctes sur la manière de traiter le cas nord-coréen dans cette élection. Et cela explique en grande partie pourquoi les Nord-Coréens s'invitent eux-mêmes à nouveau dans cette campagne de manière extrêmement brutale avec cet essai.